Cette conférence est un petit peu particulière puisque, en fait, elle va concerner ce livre-là. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Ce livre, c'est l'anthologie officielle des Utopiales. Il se nomme Les Utopiales. Comme ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'erreur. Il a été concocté par les éditions ActuSF. Il y avait un projet auparavant qui était réalisé par les éditions de La Talente, un très joli projet. Et puis, nous avons un petit peu repris le flambeau cette année. Avec un sommaire qui nous a fait vraiment plaisir quand on l'a composé à partir des invités qui étaient là, et donc on a eu la chance d'avoir et Catherine Dufour, et Stéphane Baxter, et Watin Williams, et Pierre Bordage, et Jean-Philippe Jaworski, et Robert Charles Wilson, et Hugo Bellagamba qui est ici. Et voilà, Hugo qui nous a fait l'honneur de nous faire une préface, et à qui peut-être je poserai des questions, même s'il est dans le public et qu'il n'est pas sur scène. Mais voilà, ma première question peut-être, Pierre, vas-y, finis de voir, hein, tout va bien. je vais juste vous présenter à côté de moi Walter John Williams, juste à côté Stephen Baxter, Catherine Dufour, la fille du recueil, Jean-Philippe Jaworski et Pierre Bordage. Pierre, c'est une idée qu'on a eue en discutant l'année dernière. Quelle importance ça avait pour toi d'avoir une anthologie officielle pour le Festival des Utopiales ?
Ben, je trouvais que c'était une bonne habitude de marquer les Utopiales par un recueil consacré en plus au thème de l'année. Je me souviens des premières années où le recueil attendait chaque invité et c'était une façon aussi d'accueillir les gens. Et en même temps, ça permet aussi une sorte d'état des lieux de l'ASF à un moment donné, etc. Donc j'étais très content quand on avait parlé que quelqu'un décide de... Parce que c'est un peu compliqué, tu as dû t'en apercevoir à monter une anthologie de gens. Donc j'étais très content que tu aies décidé de reprendre ça et que de nouveau on ait accès à une anthologie. Ça me paraît évident parce que c'est vraiment des petites pierres qu'on monte aussi. Le mur d'Utopial se monte aussi avec ces petites pierres-là et je pense que c'est très très important.
Pour vous dire, donc, je suis modérateur aujourd'hui, mais je suis aussi...
L'éditeur est là aussi. Oui.
Voilà, je suis aussi le responsable de cette anthologie. Et donc on a discuté avec Pierre Bordage. Et surtout, dans ce projet-là, qui était un formidable projet des éditions La Talente, donc on est très honoré de le reprendre. Et je voulais vraiment une nouvelle de Pierre Bordage, qui est l'auteur un peu emblématique des Utopiales. On peut dire comme ça.
Bon, on peut pas dire ça. Je suis président de l'association, c'est tout.
Voilà, juste ça. On va faire peut-être un petit tour d'horizon des nouvelles pour les présenter. On va commencer par toi, Pierre.
Encore ?
Bah oui, encore. Une nouvelle très atypique pour
oui,
le coup.
Oui, 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 complètement.
Est-ce que tu peux nous en donner la genèse et un petit résumé ?
Voilà, j'ai trahi ma façon de faire habituelle, qui est de raconter une histoire. Et là, je suis pas du tout. J'ai pas du tout raconté une histoire, mais j'ai plutôt fait une introspection. Parce que le thème Monde meilleur, je me suis interrogé, ça c'est pour reprendre le débat qu'on a eu hier sur Darwin et tout ça, je me suis vraiment interrogé sur les racines de l'évolution, et je me suis intéressé à la pensée et au fait que la pensée crée des prisons mentales quand elle est prisonnière du temps. Voilà, donc c'était plus une réflexion, c'est une sorte de cri en disant est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce que l'évolution technologique nous apporte réellement des solutions, ou bien est-ce que ça fait que changer la nature des problèmes? Je veux dire, l'atome a donné l'électricité, mais aussi la bombe atomique. On est par exemple à la veille de la biotechnologie, et la puissance des biotechnologies fait qu'il y a un grand besoin de réflexion là-dessus, parce qu'il y aura certainement des choses irréversibles qui vont être faites à ce moment-là. Donc je me suis dit, mais quel est le mécanisme qui conduit à tout ça ? Et je me suis laissé aller à une sorte d'introspection. Donc c'est un texte introspectif plutôt, d'un type qui est prisonnier d'une sorte d'espace virtuel et qui raconte comment il en est arrivé là, comment il est arrivé au bout de sa logique de pensée, au bout de sa logique prisonnière finalement, et qui raconte son histoire de façon... web assez introspective finalement. Donc j'ai assez peu l'habitude de faire ce genre de texte. Ça m'a plu de le faire, mais j'étais un peu inquiet de ta réaction. Je me dis, bon, c'est tellement atypique qu'il ne va pas vouloir. Donc je me souviens du mail que j'ai envoyé à Jérôme en disant, t'es pas obligé de l'apprendre, hein, surtout, te force pas. Voilà, il m'a dit qu'il me l'apprenait. Bon, c'est très gentil de ta part, mais voilà. Je pensais aussi que ça allait faire réagir beaucoup le milieu de la science-fiction, parce que ça parle pas mal de Dieu, de spiritualité, d'un tas de choses qui sont assez peu communes. Courante dans le genre. Enfin, je me souviens d'avoir fait une table ronde à 14 auteurs une fois. 14, c'est beaucoup. Hein. Et où on a demandé quels étaient les auteurs d'essence plutôt spiritualiste. J'étais le seul à lever le doigt. Donc je me dis, mais voilà. Donc je suis allé au bout de cette démarche, je suis allé au bout de cette logique. Et vraiment, ça, c'est une réflexion sur les mécanismes de la pensée, racine de la souffrance. Et je pense que si on n'éradique pas cette racine de la souffrance, on aura toujours les mêmes problèmes, quelles que soient les évolutions technologiques.
Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, on l'a dit, de très différent, mais peut-être une de tes nouvelles les plus personnelles ?
Oui, oui, certainement, parce que c'est là où je m'expose le plus. Enfin, je me cache le moins, qui revient au même. D'habitude, je suis planqué derrière une histoire, bien que j'ai remarqué que les histoires ramenaient des choses de soi. Enfin, la fiction ramène des choses de soi qu'on n'a pratiquement jamais prévues. Je pense que l'écriture est quelque chose qui draine très profondément dans l'inconscient. Et même si on a la sensation de maîtriser les choses, moi, je maîtrise en tout cas quasiment rien. Donc voilà, je ne suis pas planqué derrière des personnages ou derrière une structure narrative. Je suis parti d'une sorte de plongée... au fil de la plume, comme ça. Mais vraiment, parce que le thème monde meilleur, ça, c'est ce que ça m'inspirait. Je veux dire, mais quels sont nos progrès depuis l'Antiquité ou même avant ? Est-ce que nos structures sociales, est-ce que nos progrès, nos évolutions, nos passages à la démocratie ont vraiment résolu le problème humain ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a toujours autant de souffrance et d'injustice sur ce monde. Et... voilà, la question qui s'est imposée à moi, c'est pourquoi ? Pourquoi il y a, d'où sort cette propension humaine à la souffrance, alors que, comme le croyait Jules Verne quand il a commencé à faire ses livres, il pensait que la science allait apporter quelque chose de nouveau et c'est quasiment le bonheur à l'humanité, et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc il y a bien quelque chose en dessous qui est de l'ordre de la racine qu'il faut essayer de déterrer pour voir ce que c'est.
Alors, on va poser la même question à Walter John Williams à propos de sa nouvelle. Elle s'appelle Elvis le Rouge. Et alors, sa nouvelle est assez amusante puisqu'il a imaginé un monde parallèle dans lequel Elvis Presley n'est pas vraiment Elvis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu l'idée, puis peut-être résumer un petit peu l'histoire ?
J'étais à une conférence de science-fiction et donc j'étais lors d'une conférence sur la mythologie, on parlait de mythologie, et quelqu'un a posé la question, comment est-ce que vous pouvez créer une mythologie contemporaine ? Et ma réponse a été que c'est les mass-médias qui le font, dans notre société contemporaine. Nous avons des personnages mythologiques dans notre monde, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Bob Marley, Bruce Lee... Chacun de ces personnages, en fait, ce sont des demi-dieux hein, qui ont survécu à leur mort, tout simplement. Et sont entrés dans la culture populaire. Ce qui m'a intéressé, en fait, ça a été la création d'un mythe moderne. J'ai étudié, j'ai regardé donc la vie d'Elvis Presley. Et sa vie, en fait, correspond à pas mal de modèles mythologiques. Il était un gémeau et son frère ou sa sœur est décédé et donc transformé en dieu, en fait. Sa mère venait d'origine très, très, en fait, pauvre et devenue riche. Elle savait donc comment, en fait, créer un petit peu des charmes et autres. Et elle était dévouée à son fils et a transmis cette magie à son fils pour lui permettre, en fait, de devenir célèbre et puissant dans le monde. Il est mort jeune et donc, ce qui est nécessaire aussi pour devenir immortel, je dirais, dans la mythologie du moins. Et lui, donc, était un révolutionnaire, en fait, social et musical. J'ai acquis les différents CD de ses premiers enregistrements, tous les enregistrements qui n'ont jamais été sortis non plus. Hein. Et en écoutant donc ces enregistrements, piste après piste, vous pouvez l'entendre inventer le rock'n'roll. Son groupe, en fait, c'était un groupe de country, donc qui avait plus l'habitude de jouer de la musique country. Et vous les voyez donc changer, là, piste après piste, et avoir l'impact de cette musique jusque cela corresponde à sa propre personnalité, ses propres dons. C'était vraiment quelque chose de fascinant à écouter. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à un Elvis Presley alternatif qui était donc un révolutionnaire social, politique, pardon, musical. Mais était-il aussi un révolutionnaire politique? Là était la question. Je lui ai donc donné un côté politique, là aussi. Et il y a eu un point dans la vie d'Elvis où, bon, bien sûr, il a dû faire son service militaire. Et notre Elvis a rejoint l'armée donc pendant un certain temps et a mis sa carrière entre parenthèses. Il devait être un exemple pour la jeunesse de cette époque. Mais bon, oui, le fait qu'il ait été appelé à faire son service militaire, c'était un acte politique de la part de certains politiques locaux. Il voulait vraiment qu'il fasse son armée, peut-être pour le discréditer aussi, peut-être un peu. Et donc, dans mon histoire, donc le point là de renversement est qu'il refuse donc d'y aller et donc devient un exilé politique. Et donc, sa vie change à partir de ce moment-là.
Il devient communiste ?
Yes, yes, he does. Oui, tout à fait. Ça fait partie de son évolution. Et il va plus loin, en fait, que le communisme des années 60, pour devenir une sorte donc de représentation du monde du travail. Et donc devient une aspiration politique. Il a affaire à la politique des années 60, les marches de Martin Luther King, les démonstrations contre la guerre du Vietnam.
Elvis Presley communiste.
Well, there was a communist Elvis. Il y en a eu un, en fait, hein? Il y en a eu un. Je ne me souviens pas de son nom, mais il y a eu un Elvis Presley communiste. C'est une star du rock'n'roll qui est passée à l'Union soviétique. Hein, et il est intéressant à lire, d'ailleurs. Hein, et dès qu'il est passé à l'Est, donc, il a été compromis d'un point de vue politique, bien sûr, dans le système soviétique. Et il n'a pas pu non plus aller au-delà de cette défection. Ça aurait été une vie très très difficile, je pense, si Elvis avait choisi de faire de prendre ce chemin.
À Stephen Baxter, je suis ravi d'avoir ici, parce que jusqu'ici on s'est plutôt parlé par mail, par mail interposé. La nouvelle, c'est Georges et la comète. Est-ce que vous pouvez, pareil, nous donner un petit peu l'idée, puis peut-être le résumé de cette nouvelle qui est vraiment étonnante et très très drôle?
Oui, alors, je m'excuse de ne pas parler français. Je remercie les interprètes et je vous remercie de votre patience. Mais donc, on en revient à la toute première question ici. Vous savez, c'est un petit peu une vue rapide de ce que les organisateurs de cette technologie pensaient que serait intéressant. Donc oui, c'est un objet intéressant sur lesquels on peut revenir. Mais Georges et la comète, c'est une histoire un petit peu inhabituelle pour moi, une histoire un petit peu surprenante. Moi, mes histoires, généralement, se passent donc sur des espaces-temps importants, le monde est détruit, 5 milliards d'années de cela, et ensuite, il y a des archéologues et extraterrestres qui viennent. Et par différents moyens à reconstruire la personnalité humaine et les corps qui vont avec elle. Mais il se trompe. Et ceci a été inspiré par une visite dans un musée à New York, aux États-Unis, où là, ils ont donc un diaporama, en fait, sur des scènes d'Australopithèque, donc préhumains, qui ont été reconstituées à partir d'artefacts. Et il y a donc un mâle là, qui a ses bras autour des épaules d'une femelle. Mais bon, je ne sais pas. Il y a beaucoup de controverses sur cet homme qui protège la femme. Bon, ça aurait pu être la même chose avec un enfant, ça aurait pu être à des temps différents. Mais vous savez, il est difficile de reconstruire les choses. Donc, c'est ces aliens-là qui vont reconstruire dans quelques milliards d'années. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de difficile. Il y a là donc des humains modernes et qui se retrouvent à la fin du monde. Et ils se trompent aussi dans les sexes. Les caractères sont trop britanniques, hein, des moyennes classes, classe moyenne, pardon. Et ils sont un petit peu embarrassés de se retrouver un petit peu dans cette galaxie. Donc voilà, c'était l'idée de base. Mais les circonstances de l'époque, eh bien, on regardait, on avait des changements dans nos vies, on changeait d'emploi, on changeait de maison, et je travaillais à temps plein encore. Et l'écriture n'était qu'un travail à temps partiel. Mais je devais avoir quelque chose, et donc j'ai fait cette histoire. Et vous voyez, c'était une sorte de répit par rapport à tout ce que je vivais, en fait. Hein. Et tout il m'a fallu des mois, en fait, pour pouvoir avoir le premier jet. Hein. Et c'est quelque chose d'assez simple, d'assez drôle, qui peut-être va s'allonger avec le temps. Donc ça a été assez populaire, ça a été publié plusieurs fois, et c'est assez inhabituel pour ce que j'écris. Et ça a été aussi adapté par une entreprise américaine comme Drame Audio, avec donc différents acteurs. Et ça, c'est aussi très intéressant à écouter, parce que donc, c'est assez britannique, et là, on a donc des accents New York contemporains. Et donc, vous voyez, bon, et dans la traduction française, donc avec le français, il y a aussi un nouveau goût à tout ceci, en fait.
Et votre héros se réveille un jour, et en fait, c'est un singe. Ça, c'est le départ de l'intrigue. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus?
Well, that's essentially it. He's
Donc ces étrangers là, ces aliens qui n'ont jamais rien vu de l'humain, font ce qu'il y a de mieux pour les reconstruire. Et ils ont des échantillons donc pour essayer d'avoir des témoins de la fin du monde. Pour savoir si on sait qu'on pourrait faire nous avec les mammouths par exemple ou autre. Hein. Mais bon, ils se trompent. Et ça, le protagoniste en est très triste en fait. Et là, on essaye de comprendre, ils essayent de comprendre où ils en sont, en fait, à la fin des temps, et voilà. Mais bon, il y a quelqu'un qui arrive et qui sauve tout ça, et on va peut-être mourir tous, mais la vie va continuer quand même.
La fille du sommaire, qui nous a fait l'honneur d'une nouvelle qui s'appelle « Un temps chaud et lourd comme une paire de seins ». Voilà, c'est tout un programme. Catherine, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le début, et puis après l'idée de départ? Ou avant, comme tu veux.
À résumer d'abord le début, c'est l'histoire d'une femme qui est lieutenant de police à Seattle et qui se retrouve à travailler sur une vieille enquête. Il y a une vieille écrivain qui vient la voir pour lui demander de retrouver l'assassin de son père. Et on se demande si c'est pas sa mère qui a assassiné son père, mais il y a 40 ans de ça, il faut reprendre l'enquête au départ. Donc ça, c'est le début de l'intrigue. Moi, ça m'a été inspiré par Elroy, qui est un excellent auteur, on va dire, de polar américain, pour faire vite, qui a un univers, il faut le dire, très très masculin, très agressif, avec des flics et des voleurs. C'est un univers extrêmement masculin. Et je me suis dit, et si on inversait les valeurs? Donc on va mettre le masculin à la place du féminin et le féminin à la place du masculin. Parce que je venais de relire Scum Manifesto, qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Valérie Solanas. Ça a été écrit par Valérie Solanas, qui est la femme qui a essayé de tuer Andy Warhol. Et Scoop Manifesto est un archétype de littérature misandre. Voilà, la littérature misogyne, on en a énormément. Vous prenez Baudelaire, vous prenez Saint-Augustin ou autre. Donc on a des listes de descriptions de la femme comme vase d'iniquité. Et Valérie Sonnana, c'est à ma connaissance une des rares femmes à avoir fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a fait un manifeste qui est un torrent de bêtises de misandre. Voilà. Donc vous remplacez homme par femme et vous obtenez Saint-Augustin parlant des femmes. Et je me suis dit, on va faire de l'Elroy au féminin, on va remplacer la violence masculine par la violence féminine, et est-ce que le monde va être meilleur? Alors, le résultat, non, et que pas du tout. Alors, je ne change rien à l'homme, il est toujours plus costaud que la femme, toujours plus de masse musculaire. La seule chose que je change, c'est le taux d'adrénaline chez la femme. C'est-à-dire que, dans nos sociétés, on constate que le taux d'adrénaline, l'agressivité est supérieure chez l'homme. 96% des crimes de sang sont commis par des hommes, mais si je vous dis machin a assassiné telle ou telle personne, immédiatement vous allez avoir en tête l'image d'un homme. C'est rare que les femmes assassinent, égorgent ou jettent leurs enfants par les fenêtres, alors que les hommes, il y en a tous les jours. Et ça, c'est dû non pas à la testostérone, mais à l'adrénaline. Donc j'ai imaginé que les femmes avaient tout simplement un peu plus d'adrénaline qu'elles en ont maintenant. Donc ça fait des prisons remplies de femmes. Tous les flics qui courent après les voleuses sont des femmes. Quand on trouve un cadavre, c'est un cadavre d'homme assassiné par une femme. Et ça donne un monde très bizarre, extrêmement déplaisant, alors que c'est vraiment la carbone copie de celui qu'on vit. Et même à la correction, c'est assez difficile. Par exemple, mon héroïne, elle a 25 ans, elle va épouser un jeune homme de 20 ans. Et ma correctrice m'a dit, tu t'es pas un peu trompée dans la chronologie, là? J'ai dit, non, c'est une femme, elle préfère la chair fraîche, c'est normal. Mais même dans la correction, là, je suis encore en train de retrouver quelques petits détails qui n'ont pas passé par le correcteur. Par exemple, je dis qu'il y a des parents inconscients qui offrent à leurs enfants, très jeunes, des motos qui vont trop vite et on les retrouve, ils vont faire des rodéos et on les retrouve aplatis contre les murs du périphérique, du boulevard périphérique. Et donc, je dis des gosses à qui on offre trop tôt de trop grosses motos et qu'on retrouve aplatis. Et j'avais mis aplatis eux, parce que dans ce monde-là, ce sont les femmes qui montent sur des grosses motos et qui se flanquent la figure par terre. Et le correcteur a viré mon E, parce que pour nous, c'est les hommes, c'est systématique. Même si effectivement, on a un E neutre. Mais en général, le fait est que les rodéos sont plus souvent le fait de jeunes hommes que de jeunes femmes. Donc même dans la conception de ce texte, il a fallu que je me fasse souvent violence pour ne pas retomber dans des vieilles ornières de notre monde actuel. Je l'ai retranscrit en inversant le « il » et le « elle », le masculin et le féminin, pour être bien sûr de rien oublier. Et notamment, j'ai mis au point une chose que j'avais oublié de faire, c'est pour expliquer la violence des femmes vis-à-vis des hommes, il faut que les femmes aient une idée bizarre de l'homme. Donc elles voient l'homme comme une personne menaçante dont elles ne comprennent pas les motivations. Mon héroïne n'arrive pas à comprendre comment raisonne son mari, comment il pense, mais elle est contente qu'à un moment, une fois qu'il s'est occupé des enfants, il prenne un peu son indépendance, parce qu'elle avait vraiment du mal à rentrer dans le psychisme un petit peu bizarre de l'éternel masculin. Donc j'étais obligée d'inventer cette image de l'homme vu par la femme comme une créature à la fois séduisante et inquiétante qu'on a à la fois envie d'aimer et de haïr. Et après j'étais obligée donc de tout rebasculer en masculin-féminin et de me battre avec les correcteurs pour qu'ils laissent dépasser justement toutes ces scories auquel on est habitué dans un monde justement qui n'est pas du tout bipolaire. On n'est pas du tout dans un monde bipolaire, et en rédigeant ce texte, j'ai compris qu'il y avait un fort déséquilibre à la fois dans l'être et dans les hormones, mais aussi dans l'imaginaire. Voilà. Et donc j'en ai conclu que ça ne serait absolument pas un monde meilleur si on inversait le mâle et la femelle et qu'on donnait à chacun les défauts de l'autre.
Oui, parce que globalement, il y a autant de crimes, il y a autant de viols, c'est juste les filles qui violent les hommes.
Voilà. Il suffit d'un instrument contondant. Hein.
Voilà, pour les amateurs, c'est dans l'anthologie. On va poser la même question à Jean-Philippe. Jean-Philippe qui nous a fait pour le coup une nouvelle assez étonnante, puisqu'elle relève plus de la fantaisie. Pour le coup, est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes?
Alors pour commencer, le thème « Les mondes meilleurs », moi ça m'a tout de suite angoissé. Ça m'a angoissé parce que je me suis dit un projet de monde meilleur, ça a toutes les chances de déboucher sur une catastrophe. J'avais tout de suite en tête des réalisations totalitaires. Donc c'était mon premier réflexe. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais raconter en SF là-dessus qui n'a pas déjà été écrit. C'était une tâche absolument écrasante, surtout dans le cadre d'une nouvelle. Et puis, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais des mondes meilleurs, il y en a déjà eu dans le passé. Pas forcément des mondes meilleurs réels, mais en tout cas des âges d'or. Hein, il y en avait dans le passé. Il y en a un en particulier que tout le monde connaît. Il a été très très fugitif. C'est le monde des chevaliers de la table ronde. Alors, ça, c'était un exemple de monde meilleur qui a marqué les imaginaires pendant des siècles. Et dans le monde des chevaliers de la table ronde, il y a des symboles, dont un symbole qui est pour moi emblématique de toute l'ambiguïté du projet de Mondemeyer, c'est l'épée de souveraineté. La justice représentée par une arme. En soi, c'est contradictoire et c'est quelque chose d'effrayant. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient? D'où vient ce symbole, symbole guerrier, qui a fini par devenir un symbole positif? D'autant plus que l'épée de souveraineté, l'épée de justice, on la trouve régulièrement dans la pensée médiévale, on la trouve quasiment pas dans l'Antiquité. Donc il y a un moment où ça apparaît. Alors j'ai cru identifier ce moment où le mythe de l'épée de souveraineté qui va construire un monde meilleur apparaît. Et alors je ne veux pas le dire trop. On peut dire que... Non, je ne vais pas lire trop de crainte de déflorer la nouvelle. Hein. Et c'est lié aussi d'ailleurs à l'apparition, par exemple, du mythe du dragon. Le mythe du dragon, qui est finalement assez peu présent dans l'Antiquité, il va s'imposer brutalement au Moyen-Âge, et il est toujours lié d'ailleurs au monde arthurien. Alors, ma nouvelle ne porte pas sur le monde arthurien. Hein. Mais j'ai cru l'identifier, et je me suis dit, ben, je vais construire une nouvelle là-dessus. Donc, le sujet de ma nouvelle, il semble effectivement être complètement fantasy, puisque au début, on a un roi qui va visiter un forgeron, et qui lui dit « Je veux une épée magique. » Et qui se fait, qui passe commande d'une épée magique. Ce qui effraie assez le forgeron, parce que le forgeron lui dit « Oui, une épée magique, je suis capable de t'en forger une, mais je connais d'autres personnes qui sont aussi capables de t'en forger une. » Et puis, il lui demande « Pourquoi tu veux une épée magique ?» Et le roi lui répond « Parce que je veux plus, et puis je veux construire un monde meilleur. » Et du coup, le forgeron lui dit « Bon, bah, pour ça, j'ai mieux à te proposer. » Je peux peut-être le réaliser, mais ça dépend aussi de toi. Je peux te proposer de fabriquer une épée sacrée. Et le récit porte sur la fabrication de cette épée, sur l'usage que va en faire le roi, sur l'usage catastrophique que va en faire le roi, sur ses connexions surprenantes, peut-être avec notre propre monde notre propre histoire.
Est-ce qu'on peut donner les ingrédients pour fabriquer une épée sacrée?
Alors, pour fabriquer une épée sacrée, en tout cas, dans ce monde-là, que vous connaissez, hein, puisque ce roi, le roi Xanthikos, monarque des Roxolans, vit en Cimérie. Alors, pour fabriquer cette épée, le forgeron va exiger plusieurs charretées de charbon de bois, du fer doux, c'est bien. Pour la résistance de la lame, il y ajoutera un peu de fer dur pour le tranchant de la lame. Il veut également des esclaves, parce que pendant qu'il forge l'épée, on est dans un monde qui est encore primitif, il ne peut pas s'occuper de ses troupeaux, donc il faut bien que quelqu'un s'occupe de ses troupeaux. Comme le forgeron est aussi sorcier, c'est la raison pour laquelle le roi l'a visité, lui a passé commande, le forgeron demande aussi, en compensation des esprits qu'il va mettre dans l'épée, qu'on donne un fils de chef en mariage à sa fille. Et puis, il y a une dernière composante, et c'est la plus problématique. Le forgeron dit au roi, ensuite, il faut tremper l'épée. Pour avoir une épée magique, il faut la tremper dans la poitrine d'un homme jeune. Ce qui a été une pratique dans la forge qu'on retrouve jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Pas forcément en Occident, mais en tout cas, on trempait l'épée dans la poitrine d'un homme pour aspirer sa force et l'attribuer à l'arme. Mais le forgeron dit au roi, je ne suis pas le seul à faire ça. Donc si on trempe ainsi cette épée dans le corps d'un homme, il y en a d'autres qui seront capables de forger des épées semblables à tes ennemis. Donc ce qu'il faut faire pour avoir l'épée sacrée, c'est qu'il faut tremper l'épée dans le corps d'un animal fabuleux. Et lui propose trois possibilités. Tremper l'épée dans un oiseau de feu, tremper l'épée dans le corps d'un dragon, ou tremper l'épée dans le corps d'une sorcière. Et le roi réfléchit un peu, et puis il dit que ça lui plaît, qu'il va trouver. Il va trouver. Alors, je ne vous dis pas qui il finit par trouver, mais il trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un pour la trempe de cette épée sacrée.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir une épée ou un canif sacré éventuellement, ou un couteau de cuisine. Enfin, c'est pas un appel à planter tous les jeunes hommes qui passent. Hein, votre couteau sera pas plus fort. Je vais appeler sur scène Hugo Bellagamba qui nous a fait le plaisir de nous faire la préface. Voilà. Hugo Bellagamba, messieurs dames. Qu'entre nous, on appelle Serge Lehmann, parce que Serge Lehmann a fait la préface de l'anthologie Retour sur l'horizon. Il a fait la préface d'Utopia.
Je suis le petit Serge Lehmann.
Le petit Serge Lehmann. Voilà, ça. Serge Bis. viens prendre mon...
Non, je suis très bien. D'accord. Non, je suis très bien.
Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta préface sur les mondes meilleurs? De quel point de départ tu es parti?
Alors d'abord, je suis ravi que tu m'aies demandé de la faire. Et je suis ravi d'avoir pu être accompagné et être voilà, aux côtés de tous les auteurs qu'il y a ici sur le plateau. Enfin, ils ne sont pas tous là. Mais... Et alors, en fait, comment j'ai travaillé, en fait, ça va être... Je vais pas dire ce qu'il y a dans la préface, évidemment. Moi, je ne dirai rien. Vous voulez lire la préface, il faut acheter le bouquin. Mais par contre, je vais dire comment j'ai réfléchi. La notion de monde meilleur, je travaille dessus en tant qu'historien des idées. Et notamment, je travaille sur l'histoire de l'utopie, donc c'est un thème très important pour moi dans mon travail universitaire et en même temps dans mon travail d'auteur. Alors en fait, je me suis dit, il y a plusieurs manières de procéder. La première, c'est de revenir sur l'historique de la notion de monde meilleur et de faire une préface extrêmement didactique qui allait resituer la réflexion sur le monde meilleur et ouvrir sur les textes des auteurs ici présents. J'étais parti sur ça au départ, c'est-à-dire un côté très, très pédagogique, on va dire. Ensuite, je me suis dit, ce que je peux faire aussi, c'est prendre tous les textes des auteurs, regarder ces textes, les analyser, et en tenter une synthèse dans la préface. Mais dans ce cas-là, là aussi, ça aurait été sans doute quelque chose de déjà fait. Alors finalement, à force de réfléchir, et puis pour moi, c'était très important, cette notion de monde meilleur, j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber le côté didactique, qui n'aurait pas apporté grand-chose et qui pouvait être fait par ailleurs, dans un autre endroit. J'ai laissé tomber le côté synthétique, qui aurait un petit peu défloré les textes et qui aurait été un jeu où je me serais fait plaisir, moi, finalement, en mêlant des éléments de tous les textes, et qui n'aurait pas été, finalement, une vraie mise en valeur de ces textes-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'ajouter ma voix. Et donc, j'ai tout mis de côté, et je me suis laissé guider par mon intuition, mon inspiration du moment, un peu comme j'avais fait jadis pour une certaine autre anthologie d'ActuSF. Et donc j'ai tout balancé, je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai dit voilà, où sont passés nos mondes meilleurs? Est-ce que véritablement le monde d'aujourd'hui est un monde fermé aux alternatives utopiques? Est-ce que l'utopie c'est encore un moyen aujourd'hui de réfléchir au monde et à son avenir? Et donc j'ai tout mis de côté, je me suis mis devant mon clavier et j'ai laissé parler mon cœur en fait. Et la manière dont moi je voyais le monde meilleur, et ce que j'avais envie de dire aux gens, en espérant que ce que j'avais envie de dire aux lecteurs de l'Anto s'ajouterait harmonieusement au texte merveilleux des auteurs ici présents. Voilà, donc ça a été vraiment finalement spontané.
Jean-Philippe ?
Moi j'ai juste lu la préface de Hugo hier soir, j'ai pas encore lu les autres nouvelles. Il faut absolument lire cette préface, hein. C'est une préface dont vous êtes les héros.
Oui, vieux souvenir d'ailleurs de l'époque.
L'idée, c'est que tu t'es demandé un petit peu si finalement nous n'étions pas dans un monde meilleur aujourd'hui.
L'idée, ce que j'ai voulu, c'est en fait, après en la relisant, c'est qu'on réalise aussi qu'à force de dire que notre monde est pourri, on finit par le faire pourri. et que donc j'avais envie aussi de vous transmettre ce message, c'est que lire de la science-fiction, lire des textes aussi divers et aussi variés que les textes qui vous sont proposés dans cette anthologie, c'est garder l'ouverture, garder votre capacité à penser l'impensable ou à ce que l'on veut vous faire croire comme étant impensable, et que finalement notre monde il est peut-être pas aussi pourri, et qu'en tout cas même s'il y a beaucoup d'éléments négatifs en notre monde, il y a toujours des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour s'orienter et tourner votre regard vers un futur plus drôle, plus amusant, plus exaltant, plus jouissif.
Très bien. Et il nous reste 10 petites minutes simplement. Alors on va passer aux questions, sinon on va continuer la discussion. Et que quelqu'un a une question à poser aux auteurs sur les thématiques que vous venez d'entendre? Peut-être une fois. Bon, tant pis, on va continuer. Simplement, je voulais revenir sur le phénomène des anthologies. Est-ce que c'est important de figurer dans des anthologies ou dans l'anthologie du festival quand on est auteur, parce qu'on écrit une nouvelle supplémentaire, on s'inscrit dans un projet, ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Qui veut répondre? Monsieur Baxter, peut-être, oui.
Yeah, well, comme je l'ai dit auparavant, j'ai participé à pas mal de conventions par le passé bon, et c'est vrai que quand on examine ces conventions, c'est un petit peu comme une photographie de groupe. Qui est là? Et ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que montre l'anthologie, qu'est-ce que l'anthologie dit de cette convention, finalement. Donc je pense que ce sont des artefacts, des objets qui dureront, qui resteront dans le temps. Parce que c'est une convention qui fait la part belle à la littérature, et enfin un petit coin en tout cas de la littérature, donc c'est un bel objet littéraire qui permet de donner une continuité à cela. Et il n'y a pas d'anthologie de BD par contre dans ce festival, je crois.
Alors, qui veut répondre parmi les auteurs français? Est-ce que c'est important d'être dans des anthologies et dans celle-là particulièrement? Vas-y, Catherine.
Ah oui, moi je suis. Ah. Je suis très fière d'être dans une anthologie à vos côtés, vous voyez. C'était ma motivation quand j'ai vu tout le beau linge. Je me suis dit chouette, j'étais très flattée qu'on me le demande. Ça vaut aussi pour mes voisins.
Jean-Philippe.
Oui, pas mieux. Alors, on est en excellente compagnie, donc on se retrouve très très flattés d'être dans une anthologie. Mais à la limite, moi je me fais un peu l'effet d'être un parasite. Quand j'ai vu effectivement tout le beau linge, je me suis dit, je vais bénéficier des retombées de la renommée des anthologistes.
La nouvelle Jean-Philippe Jaworski s'appelle Préquel et elle termine. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire? Peut-être Pierre, pour conclure.
Oui, je suis très content de faire partie d'anthologie, puisque c'est l'anthologie du festival. Et puis, moi qui ne suis pas un auteur naturel de nouvelles, j'aime beaucoup être provoqué pour faire des nouvelles, sinon j'y vais pas tout seul. Donc il me faut un thème, il me faut dire ah non mais j'ai besoin d'une nouvelle, et bon, je suis à la fois content qu'on me propose des sujets qui m'obligent à faire cet exercice court qu'est la nouvelle, pour lequel je suis pas vraiment un spécialiste, et puis aussi le fait de figurer dans l'anthologie du festival, évidemment c'est un... pas un aboutissement, mais quelque chose de très sympa, ouais.
Bon, ben écoutez, on vous remercie en tout cas. Donc vous l'avez compris, elle s'appelle Utopia 09. Elle est en vente à la librairie ou au stand Actu SF à côté du bar. C'est facile à trouver et vous pouvez évidemment vous la faire dédicacer par tous ses auteurs. Merci beaucoup à tous. Thank you.